Bonjour à tous, ici Guillaume Lafleur sur les ondes des KRL. Vous écoutez Au 7e ciel, regard sur le cinéma, 1h30 chaque semaine au 89.1, consacré uniquement aux images en mouvement et au cinéma en particulier, que ce soit aussi bien l'actualité cinématographique, un retour aux sources et aux inspirations du cinéma contemporain, donc un passage par l'histoire du cinéma, aussi bien que tout à coup des envies spontanées de la part de l'animateur de parler de certains films en particulier qui ne font pas partie nécessairement de l'actualité, qui ne sont pas nécessairement non plus des piliers fondateurs du cinéma contemporain, mais qui ont une singularité qui stimule la réflexion. Donc un espace pour la réflexion, parfois pour l'échange, parfois je suis seul pour parler de cinéma très souvent, en fait, et à l'occasion également des invités. Aujourd'hui, le programme est tout simple. Dans un premier bloc, la première demi-heure, il va être question justement d'actualité à travers un film d'un duo de cinéastes ineffables qui ont relancé le cinéma américain depuis plusieurs années. Ça s'appelle une équipe de choc, les frères Coen. C'est des cinéastes qui œuvrent au cœur du cinéma contemporain, à la frontière entre le cinéma indépendant et le cinéma d'exploitation, qui dynamitent un peu les genres, qui revisitent les grands classiques, les grands genres classiques du cinéma, qui font souvent aussi des coups de chapeau à un certain nombre de films qui ont marqué sans doute leur inspiration stylistique. Donc les frères Coen qui ont réalisé un film tout récemment qui s'appelle True Grit, traduit en français par Un vrai courage, dont je vais parler, hein. Je vais me concentrer un peu sur le film True Grit, qui est peut-être anecdotique dans la filmographie des Coen. En fait, ça c'est une proposition, évidemment, je m'avance un peu, on pourra y voir de plus près tout à l'heure, et puis surtout essayer de mettre en contexte peut-être la place de ce film-là dans le cadre plus vaste du projet de création qui anime les frères Coen depuis déjà pratiquement 3 décennies. Ensuite, dans la deuxième demi-heure du film Pourquoi pas, hein, un film pour vos oreilles, aurait dit Frank Zappa. Dans la deuxième demi-heure de cette émission de radio, je parlerai encore une fois de cinéma américain, cette fois-ci dans le volet histoire du cinéma, qui est souvent un volet central de cette émission. Je vais parler d'un coffret de films publié par Criterion, qui est un éditeur de premier plan pour le cinéma d'auteur et pour tous les cinéphiles attirés par des œuvres bien restaurées, bien présentées. C'est un peu la pléiade du cinéma, en fait, la collection Criterion, du moins en Amérique du Nord. L'équivalent, peut-être, en Europe, se retrouve chez la collection Carlotta, qui est une collection italienne, franco-italienne. Donc, Criterion a édité, au cours de cette année, un coffret fascinant qui s'appelle BBS Story, qui relate en fait une aventure extraordinaire qui est peut-être emblématique de ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood au début des années 70. Des films qui ont permis l'émergence de grandes signatures, finalement, du cinéma américain contemporain, en particulier celle de Dennis Hopper, à travers un film culte qui s'appelle Easy Rider, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissez, donc sur lequel d'ailleurs je m'attarderai pas tout à l'heure, mais quand même, c'est un film qui a permis de lancer cette aventure de la BBS, Easy Rider. Quelqu'un comme Jack Nicholson, évidemment, un incontournable du jeu extrêmement théâtralisé, extrêmement performatif des dernières décennies dans le cinéma américain. C'est aussi un scénariste, c'était aussi un cinéaste. Il a fait des films jusque dans les années 90 à titre de réalisateur, il en a fait seulement quelques-uns, mais en particulier, il a fait un film au sein de la BBS qui s'appelait Drive, He Said, sur lequel je vais développer un peu tout à l'heure. Donc, il y a aussi le réalisateur Bob Rafelson qui a réalisé, dans le cadre de BBS, un film qui s'appelle Five Easy Pieces, encore avec Nicholson. Je vais en faire part un peu aussi tout à l'heure. Et il y a également un autre cinéaste qui a peut-être fait son chef-d'œuvre au sein de la BBS et qui s'appelle The Last Picture Show. Le cinéaste s'appelle Peter Bogdanovich. Tous des cinéastes jeunes à l'époque qui ont bouleversé un peu l'ordre dans le cadre hollywoodien lors de la production. Il y avait une porte qui s'ouvrait à l'époque où le cinéma européen était de plus en plus présent, de plus en plus diffusé au sein du système de diffusion américain du cinéma. Et BBS a pris ça en compte pour essayer de changer la donne de la poétique cinématographique américaine à l'époque. Et son influence se fait encore pressentir aujourd'hui. Donc je vais m'attarder un peu là-dessus dans la deuxième demi-heure. Et à la fin de l'émission, donc dans la dernière partie, je vais vous parler un peu d'un projet que je trouve vraiment intéressant, en fait. Donc après BBS Story et Coen Brothers, pourquoi pas parler un peu d'un programme qui s'appelle Cinéma en partance, dont je m'occupe et qui commence au milieu de la semaine. Ce sera présenté au Musée de la Civilisation, comme vous le savez certainement, en tout cas plusieurs d'entre vous le savez certainement. Je suis aussi directeur artistique d'Antitube à Québec. On fait de la diffusion de films, cinéma d'auteur et en particulier sous un angle thématique. Dans cette perspective-là, on fait un programme en ce début d'année qui s'appelle Cinéma en partance. Et le premier film qui sera présenté, c'est un film qui s'appelle Dans Paris de Christophe Honoré, sur lequel je prendrai la peine de faire un peu de longs commentaires tout en mettant peut-être en perspective le programme Cinéma en partance qui s'amorce cette semaine et qui continuera jusqu'au 4 février. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Qu'en pensez-vous?
To the right spine, the elevator came down, and I was wondering why the light wasn't working. I pressed the switch, and then it began. But I should have said that earlier. I willed myself to rise. I willed myself to rise. It was so cool. I was drifting close to the earth. I prayed there would be no danger. Vegetation like boughs of holly is super green. Shoving elbows out their way, talking noses, 5 o'clock shadows unveiled.
Guillaume Lafleur avec vous sur les ondes de CKRL, vous écoutez au 7e ciel. On vient d'entendre une pièce sur un album du saxophoniste de jazz français Julien Louroux, un album qui s'appelle Fire and Forget et qui date du milieu des années 2000 sur l'étiquette label bleu. On va parler un peu des frères Cohen. Je disais juste avant que c'est peut-être le duo de frères emblématique d'une sorte de renouveau du cinéma indépendant américain au long cours. Donc après BBS, dont on va parler plus tard dans l'émission, duo qui renouvelle le cinéma indépendant américain au sein quand même d'Hollywood, si on veut une certaine idée du cinéma indépendant, d'une vision du cinéma américain qui n'est pas confiné dans les genres pour servir un système, mais qui opère plutôt un principe de détournement à partir des genres, à partir des conventions. Donc ce cinéma-là qui a souvent été assimilé à ce qu'on appelait dans les années 80, ça commençait à être désuet, le postmodernisme. Mais qu'est-ce qui caractérise le cinéma des frères Cohen en général? Le détournement des genres est peut-être la façon la plus simple d'aller voir ce qu'il en est vraiment. Un film comme Fargo est peut-être un des meilleurs exemples de leur travail et de leur efficace. Un film finalement assez simple dans ses moyens, qui déroule une intrigue policière qui détonne, entre autres, parce que le couple de cinéastes insistait beaucoup sur la souffrance des personnages dans le cadre d'une poursuite de type enquête policière, sur la torture, la cruauté même qui s'applique au rapport illustré entre les personnages et qui est renforcée, si on veut, par la cruauté finalement. Le regard assez glacé du couple de frères sur les personnages qu'ils montrent, parce qu'évidemment, quand il y a une insistance à montrer la souffrance des personnages, voire leur imbécilité ou leur vaillance toujours malmenée par une situation plutôt négative, donc une enquête qui tourne mal, une situation de type film de poursuite ou de type film policier qui tourne mal, quand il y a une insistance sur le négatif, il y a forcément un peu de cruauté de la part des cinéastes qu'ils montrent en s'acharnant aussi sur des personnages et des acteurs qui deviennent plus laids que nature. En l'occurrence, Fargo, c'est vraiment un exemple emblématique du travail aussi des Coen, dans la mesure où la cruauté fonctionne à plein sur les personnages, cette espèce de distance glacée qu'on a pu aussi retourner comme un argument également négatif pour parler du cinéma des Coen, donc un argument qui finit par critiquer leur approche dans la mesure où ce ne seraient pas des cinéastes humanistes. Cette manière de voir le cinéma des Coen commence à changer. Après des films finalement assez cruels où pas mal de violence, d'hémoglobine et de personnages d'assassins sans peur ni scrupules qui semblent être des alter-ego justement négatifs des cinéastes ont animé leur travail, que ce soit à travers un film comme The Lady Killers avec Tom Hanks, qui est un peu, disons, leur film de studio et leur flop des années 2000. Les Coen ont changé un peu d'approche. Premièrement, ils ont décidé, après Lady Killers, de faire un film qui s'appelle No Country for Old Men, avec entre autres Javier Bardem et Tommy Lee Jones, en l'enfonçant le clou, si on veut, du portrait cruel autour d'un personnage d'assassin qu'on n'arrive jamais à attraper, et dans lequel, finalement, le jeu du chat et la souris est mené entre l'assassin et sa victime, entre les hommes de loi et l'assassin, est mené dans ses plus... Dans ses plus profonds retranchements, disons. Et le point de vue de l'assassin comme étant aussi le point de vue de la mise en scène et éventuellement une sorte de métaphore de la mise en scène et du travail des Coen était presque mené à son maximum d'efficace dans No Country for Old Men, de telle sorte qu'on peut dire que c'est une sorte de... que c'est pratiquement un manifeste théorique sur le travail de mise en scène des Coen qui se joue aussi dans No Country for Old Men. C'est également un film qui est extrêmement encensé, qui a été salué aux Oscars. Donc, c'est également une œuvre officielle, si on veut, une œuvre consensuelle, bizarrement. Malgré l'aspect glacé, le regard froid, perçant des cinéastes sur le monde qu'il représente. Ensuite, ils ont réalisé une comédie qui s'appelle Burn After Reading, et qui est encore là une manière de revisiter le genre, cette fois davantage du film policier béaba, donc film de poursuite, cette fois vu sous l'angle de la comédie, avec des acteurs triés sur le volet, entre George Clooney, Brad Pitt, John Malkovich. Ces personnages étant particulièrement enlaidis, en particulier Clooney, qui n'arrête pas de grimacer au long du film, reprenant un peu un style de jeu qui était déjà en place dans une autre comédie des frères Coen réalisée plus tôt au cours des années 2000 qui s'appelait Intolérable Cruauté en français, où Clooney partageait l'affiche avec Catherine Zeta-Jones. Dans ce film-là, Intolérable Cruauté, on avait davantage, de la part des Coen, l'envie de fétichiser une certaine période du cinéma américain qui était celle de la screwball comedy, une période qui a influencé plein de cinéastes, en particulier ceux qui ont contribué au renouveau d'Hollywood dans les années 70, ou en tout cas au renouveau du cinéma américain, parce que Hollywood, c'est un grand mot, là, surtout quand on pense à Woody Allen. Woody Allen est un cinéaste qui a été particulièrement sous l'influence du screwball comedy, des films des années 40, fin années 30, comme... j'ai un Bring Up Baby avec Cary Grant et Catherine Hepburn, et puis à la suite Is Girl Friday, encore avec Cary Grant, deux films où finalement l'ensemble du propos tourne autour d'une joute verbale entre un homme et une femme tout au long du film qui se retrouve dans une série de tableaux qui est alimentée par des malentendus. Ces personnages se retrouvent à vivre avec un prétexte comme ça que Hitchcock a appelé le MacGuffin, se retrouve à vivre finalement une histoire sentimentale à peine voilée qui passe par une espèce de duel quasiment hystérique, donc monté sur ses grands chevaux, où carrément le cinéaste qui dirigeait ces deux films-là, Bring Up Baby ou Is Girl Friday, Aura Dox, imposait à leurs acteurs de dire leur réplique le plus rapidement possible. Ce qui fait qu'il y a des séquences où la performance de l'acteur en termes de joute verbale est plus importante que le sens de ce qui est dit. Parce que d'ailleurs, le spectateur risque de rater souvent au moins le quart de ce qui est dit, compte tenu que les acteurs parlent très très vite. C'est ce type de cinéma assez hystérique, assez excessif, que les Coen vont reprendre dans un film comme Intolérable Cruauté et Burn After Reading en insistant sur la stylisation du jeu. Donc, c'est pas nécessairement la vivacité des répliques et l'extrême vitesse avec laquelle les répliques sont énoncées qui importe, mais plutôt une grande nervosité dans le jeu et une suite de péripéties qui s'apparente aussi à une manière de montrer des situations dans les cartoons. Je parle des cartoons classiques, là, style Looney Tunes. Donc, Il y a cette facette-là du cinéma des Coen, plus grossier, plus outrancier, ouvertement marqué par le rejet du réalisme, qui est assez importante en fait. Pourtant, en fait, la ligne directrice qu'on peut retrouver entre cette manière de retravailler des grandes formes de comédie américaine c'est aussi l'idée, encore une fois, de reprendre le genre, l'idée de détourner des références classiques du cinéma américain. Donc, aussi bien dans la comédie que dans le film policier, par exemple, l'idée de retournement, de détournement est essentielle. Ils ont fait un film l'an passé qui semblait être en rupture un peu avec cette manière de faire, disons, très postmoderne, qu'ils ont contribué, je dirais, à définir ce qu'était le postmodernisme, disons, du cinéma américain des années 80, une relecture des genres, détournement des genres en essayant de ramener ça vers le haut d'une vision d'auteur hyper conscient de ses moyens. Donc, il veut pas simplement alimenter le spectacle au service du grand public, mais aussi nourrir une sorte de fièvre cinéphilique, avec un peu de grandiloquence, là, nourrir l'analyse des critiques un peu plus cultivées qui vont y voir toutes les références qu'on y trouve et tout le commentaire aussi qu'on y trouve sur un pan de l'histoire du cinéma américain. Donc, j'ai l'impression que les Coen se sont un peu déplacés de ce système-là. Ça va m'aider à m'amener vers True Grit, le nouveau film dont je vais parler un peu plus après la pause. Le film A Serious Man, qui est sorti l'an dernier, qui, à mon avis, est sans doute leur meilleur film depuis très longtemps, au moins depuis The Man Who Wasn't There, qui est d'ailleurs A Serious Man placé dans le top 10 des cahiers du cinéma cette année. C'est pas pour rien, ça faisait un bout de temps qu'ils n'étaient pas mis de l'avant à ce point-là par les cahiers. A Serious Man déplace un peu l'enjeu, je dirais, de la représentation du détournement du film de genre chez les Coen, dans la mesure où il s'agit davantage de faire un portrait d'une réalité quotidienne, banlieusarde, d'une famille juive américaine. Et à travers le portrait de cette réalité-là, quotidienne, banlieusarde, d'une famille juive, c'est finalement toute la culture américaine dont les frères Coen se sont tellement amusés à faire une relecture au cours des dernières décennies qui revient encore une fois. Mais cette fois-ci, en utilisant finalement à l'avant-plan un matériau beaucoup plus personnel que les trucs liés au genre. Bon, le prochain film qui va venir après Serious Man, c'est le western, et évidemment, il y a plein de conventions qui s'expriment à travers le western. Quand on se décide d'en faire un, forcément, on prend position par rapport aux conventions. Tout à coup, les Coen se sont trouvés sur un terrain vierge, qui est aussi un terrain éminemment personnel, puisque les Coen sont effectivement issus de la diaspora juive américaine. Ça a commencé par un pseudo-conte en yiddish. Serious Man commence comme ça. Et à la suite, un portrait finalement des années 60 à travers un personnage masculin extrêmement angoissé, obsessionnel, qui retrouve autour de lui plein d'éléments de la culture américaine détournés. Finalement, les Cohen font un commentaire du microcosme de la communauté juive aux États-Unis pour mieux s'arrimer, disons, aux références américaines et mieux s'en moquer. Donc, tout à coup, en faisant un commentaire sur une réalité qu'ils connaissent très bien, une réalité culturelle qui est celle de la diaspora juive aux États-Unis, bon, évidemment, c'est extrêmement large, mais je dis ça pour aller vite. Le monde de la communauté juive américaine que les Cohen ont connue leur permet finalement de parler du cinéma américain d'un côté qu'on a très peu perçu ces dernières années dans les œuvres de leurs comparses comme Tarantino et d'autres qui aussi s'amusent à détourner sans cesse les grands canons.
Si vous êtes comme moi, vous trouvez que l'univers des médias et du divertissement doit se savourer comme un bon vin. Faut apprendre à recracher. Vous avez vu ce qui se fait de mieux? À ce temps, venez voir ce qui reste. Vous avez développé votre cynisme et votre sens critique en lançant des projectiles sur les pires navets de l'histoire aux projections gratuites de films douteux. Votez pour le film de la semaine sur le site de douteux.org, présenté chaque lundi à la Nincassé du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean, à Québec. Visitez le www.douteux.org pour plus d'infos.
L'étude est gratis.
Douteux.org. Si vous avez des questions, ben nous autres avec.
70 000. C'est précisément le nombre de personnes qui écoutent CKRL 89.1 dans la grande région de Québec et les environs. Depuis 1973, grâce à vous, CKRL se construit, se bâtit, évolue et grandit. Toujours à l'écoute. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973.
Tous les jours de la semaine, de 13h30 à 15h30, Le Cercle vous présente l'émission Nouveau Cru sur les ondes de CKRL. Des après-midi dédiés aux nouveautés d'ici et d'ailleurs au pays. Une programmation résolument actuelle à l'image du Cercle.
À ne pas manquer en janvier, la soirée royale fétiche électro mettant en vedette Frédéric Olufsen, Viva la Dance et Marc Rémillard le 14 des 22h. Dans le cadre des enregistrements de l'émission Les Arts Studios, Agnès Beauregard et Jai le 19. Les Cyclones et Nevermore Endless le 20 des 20h. Aussi, la soirée prend sa cour le 24 et la soirée après-ski avec Érotique PQ, 100% Dynamite, DJ Félix et Sweet Mello le 28. Le
Cercle.ca. Directeur musical Daniel Marcoux vous concocte une sélection toute francophone. Réveillez-vous en français d'abord.
Lafleur avec vous, deuxième demi-heure d'Au septième ciel, regard sur le cinéma. Encore quelques mots sur les frères Cohen. Une mise en perspective de leur cinéma a été faite juste avant la pause. J'ai parlé de leur dernier film en particulier en essayant de voir quelle était la singularité de leur approche et quelle tendance semble se dessiner dans les derniers films qu'ils ont faits. C'est un couple de frères cinéastes particulièrement importants dans la cinématographie contemporaine américaine et au-delà. Qui non seulement revisitent les genres, comme je le disais, c'est-à-dire les grands genres du cinéma américain, comme le film policier, la comédie de type Screwball Comedy, qui a eu ses heures de gloire dans les années 30, fin des années 30, début 40, avec Cary Grant, dont George Clooney est un peu l'équivalent actuel. On a souvent comparé d'ailleurs l'élégance de Cary Grant à celle de George Clooney, ou plutôt l'inverse. À force de faire des allers-retours dans l'histoire du cinéma, des fois, je reste bloqué en 1940 au lieu de montrer comment l'époque d'aujourd'hui présente un miroir déformant de toute l'histoire du cinéma. Parce que c'est souvent ça, finalement, la production, disons, générale du tout venant du cinéma actuel. et largement un commentaire sur ces conventions principales dont les bases ont été posées dans les 50 premières années de l'histoire du cinéma, donc entre le début du 20e siècle et 1950-1960, gros max. Les frères Coen sont un peu des commentateurs exquis, disons, des commentateurs raffinés à l'occasion, pas toujours, de ce cinéma de convention. Mais j'ai eu l'impression, en voyant un Serious Man dont je parlais juste avant la pause, que se dessinait une autre manière de faire, une autre manière peut-être de décaler cette approche, de moins être immédiatement dans le commentaire sur les canons du cinéma américain et sur les conventions qu'on y trouve, mais davantage un commentaire sur la société contemporaine, à travers des microcosmes culturels, par exemple, comme ceux de la communauté juive, pour mieux se moquer des grands canons, des grands référents, et parler finalement du côté peut-être psychotique qui anime le fonds culturel américain. C'est-à-dire cette idée tout à coup que, à travers la recréation du monde dans les studios d'Hollywood, c'est le monde tel quel qu'on nous offrirait. Et non une mise en scène, et non un spectacle, et non une variation artistique, esthétique sur la réalité, sur notre culture. Donc, finalement, le monde aurait changé de barre aux États-Unis, et c'est là où je dis qu'il y a peut-être quelque chose de psychotique là-dedans, c'est que tout à coup, les réels référents culturels sont confondus avec ce qui est la fausseté totale, c'est-à-dire l'art de la mise en scène cinématographique devient plus vrai que la vie courante et la vie quotidienne. C'est un peu la réflexion que moi je trouvais dans Serious Man, finalement, à travers ce portrait d'un microcosme et d'un personnage qui vit dans une réalité assez étriquée, qui est celle de la communauté juive dans laquelle il se trouve. Donc, j'étais d'autant plus stimulé et curieux d'aller voir True Grit, qui par ailleurs est un film de western. Donc, ça annonçait peut-être un retour en arrière, ou du moins une nouvelle manière de faire, beaucoup plus affirmé, peut-être chez les Coen, utiliser tout à coup le western comme véhicule, si je puis dire. C'était une manière sans doute de se renouveler pour eux, ou en tout cas de changer la donne des idées préconçues qu'on peut se faire sur leur travail. Parce qu'ils ont pratiquement, à ma connaissance, en tout cas, je pourrais peut-être faire erreur, mais il me semble qu'ils n'ont jamais fait de western, en fait. C'est sûr qu'ils n'en ont jamais fait, même si c'est des films qui s'apparentaient à des westerns, comme Oh Brother, Where Art Thou dans la fin des années 2000, qu'est-ce que je raconte, la fin des années 90, je crois, au début des années 2000. Donc, True Grit, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un film qui s'annonce pratiquement comme un remake, même si les frères Coen dénient cette affirmation. Malgré tout, il y a un film qui a été fait à la fin des années 60 avec John Wayne, réalisé par Hathaway, qui est inspiré du même roman que celui des frères Coen, donc que celui qui a inspiré les frères Coen pour faire True Grit. D'ailleurs, le titre du roman en quotidien, c'est True Grit. Donc, il y a l'idée aussi, peut-être pour les Coen, de se distancer de ce film avec John Wayne de la fin des années 60, en reprenant le titre original. Le titre français du film avec Wayne de la fin des années 60 était 100$ pour un shérif, et les Coen ont plutôt préféré True Grit. True Grit, dans le titre, il y a vérité, donc un vrai courage, c'est la traduction française littérale, finalement, du titre américain. La volonté du vrai, est-ce que c'est la nouvelle approche des Coen en ce début d'année 2011? L'idée de faire vrai au lieu de faire faux avec du faux, faire encore plus faux avec du faux, puisque, comme je le disais tout à l'heure, une grande part de leur cinéma, c'est un commentaire sur les mises en scène, les grandes mises en scène, les grands genres cinématographiques américains de la période classique. Tout à coup, on retourne ça comme un 25 sous et on va vers le vrai, une volonté de faire vrai. C'est pas exactement ça qu'on voit, mais du moins, dans True Grit, on voit un récit linéaire d'une jeune fille qui veut venger son père et qui va chercher, venger son père, en fait, qui a été assassiné par des crapules, et qui va chercher un marshal particulièrement sanglant, joué par Jeff Bridges, qui devrait l'aider, c'est ce qu'elle croit, à venger son père. Et donc, on va voir cette quête de cette jeune fille très courageuse qui se retrouve finalement à traverser une partie de l'Ouest américain pour cette vengeance. Elle est courageuse justement parce que elle a une sorte de cœur d'or. Elle veut servir la mémoire de son père. Et c'est la première fois elle veut servir ou sauver la mémoire de son père d'une certaine façon. Et c'est la première fois que les Cohen aussi s'intéressent à un enfant vraiment au premier degré, sans qu'on ait l'impression que ce soit une caricature, sans qu'on ait l'impression qu'on se moque de l'enfant. Par ailleurs, le personnage joué par Bridges, qui est une espèce de vieux Marshall avec un œil crevé qui lui fait ressembler à un pirate, est proche quand même de la caricature ou d'un certain cliché qu'on peut se faire du western, qui était d'ailleurs incarné par John Wayne. John Wayne qui jouait le rôle dans la première version de True Grit à la fin des années 60, que va jouer maintenant Jeff Bridges. Donc, on nage un peu dans des eaux qui est difficile où il est difficile de départager entre ce qui serait une relecture du genre western et une volonté chez les Coen d'aller de l'avant, de rompre avec leur approche stylistique qui a fait les grandes heures et la gloire de leur travail jusqu'à présent, souvent, au moins jusqu'à l'an dernier. Alors, moi j'ai eu l'impression en voyant ce film-là qu'ils étaient un peu entre deux chaises. En même temps, je constate aussi que c'est le plus grand succès des frères Coen à ce jour, puisqu'ils ont engrangé dès la première semaine quelque chose comme... en tout cas, ils ont engrangé des millions de dollars, alors que le film a coûté finalement pas si cher que ça à faire, à peine 40 millions. C'est, c'est une blague que je fais, mais c'est ça. Le film a coûté 38 millions, et c'est leur plus grand succès du monde aux États-Unis jusqu'à présent. Donc, d'un point de vue strictement pas commercial, c'est une réussite. Par ailleurs, pour ce qui est du western, il y a l'idée, je pense, qui est quand même stimulante pour nous, spectateurs, une volonté chez les cinéastes de rendre finalement la forme du western dans sa simplicité, dans sa pureté, entre guillemets, c'est un mot avec lequel je suis toujours un peu mal à l'aise, disons, qui fait défaut souvent finalement au cinéma américain lorsqu'il s'attaque au grand genre, par exemple, comme la comédie musicale ou le western ces dernières années. Et surtout pas dans le cinéma même que propose Clint Eastwood depuis les années 90 à travers Unforgiven, où finalement les personnages qui se retrouvent dans ces westerns sont souvent des grabateurs, de grands agonisants, des héros anciens flétris et toujours sur le bord de mourir. Ce sont presque des spectres. Et comme dans un film comme Unforgiven de Clint Eastwood, on a l'impression parfois que c'est le spectre même du western et des grandes mythologies du cinéma américain qui est présenté comme ça à travers le corps d'Eastwood vieillissant. Donc c'est comme si le genre agonisant du western était tout à coup s'incarnait dans un corps vieillissant, fatigué. Donc c'est pas un cinéma de la fatigue, c'est pas un cinéma qui est celui de l'exténuation du genre, où ça reprise de manière très virtuose, comme on le voit dans le cinéma de Tarantino. Ce qu'on voit dans True Grit, c'est davantage une volonté d'être classique, comme si ce classicisme-là n'avait jamais arrêté. Comme si c'était encore possible aujourd'hui de faire un western en ayant l'impression que ce genre-là vient d'être inventé. Qu'il est non seulement possible de le renouveler, mais qu'il est tout près de nous, que les 50 dernières années du cinéma américain qui ont changé la donne par rapport à ce qu'on peut penser du western, entre autres par des films comme ceux de Howard Hawks à la fin des années 50, qui déjà pervertissait le western, dont il avait été l'un des principaux artisans, dans la mesure où il s'intéressait davantage au dialogue entre les personnages plutôt qu'à l'intrigue et à la performance physique. Dans un film comme Rio Bravo avec John Wayne, il est davantage stimulé par le fait que peut-être Wayne va pouvoir improviser dans une scène. Et finalement, la direction d'acteur, la volonté de travailler l'icône des stars dans ce film-là dépasse largement l'idée de servir un récit qui relancerait finalement donnerait un nouveau souffle aux conventions du western. Donc, depuis les années 60, tout ça est fini, mais les Coen essaient de faire comme si le classicisme n'avait jamais arrêté et qu'on y était encore. C'est un paradoxe, évidemment, que des cinéastes qui ont tellement contribué à renouveler, ou plutôt à détourner le genre depuis 20-30 ans, divers genres du cinéma, tout à coup arrivent au western, qui est peut-être le genre qui est davantage associé à une histoire des États-Unis, donc qui fait en soi un commentaire mythologique sur l'histoire des États-Unis à travers la conquête de l'Ouest. Tout à coup, ils en viennent à se dire ça, c'est la vraie chose. On n'est pas si éloigné de cette histoire-là et de la manière de créer de la mythologie. Au contraire, c'est possible pratiquement de faire croire à nous, spectateurs, que le Western, c'est encore aujourd'hui une sorte de documentaire potentiel sur ce qu'aurait été la conquête de l'Ouest à travers des personnages qui ne sont pas des personnages mythologiques, mais qui pour autant, et c'est là le paradoxe, reprennent des trajectoires qui correspondent à une certaine forme de mythologie avec ces héros. Barbara Carlotti, une chanson qui s'appelle Changement de saison et qui est tirée de son album L'Idéal qui date d'il y a 2-3 ans. En fait, il y a eu un petit temps d'attente avant le déclenchement de la chanson, un petit moment technique bizarre, fantomatique, comme il y en a parfois à la radio. Donc ce n'est pas un fantôme ou un spectre du cinéma ancien américain qui vous parle, mais bien Guillaume Lafleur, malgré qu'on ait évoqué finalement assez longuement, que j'ai évoqué assez longuement comment se fait le renouvellement des genres cinématographiques et le commentaire sur les grandes conventions du cinéma américain dans les œuvres des frères Coen. J'ai quand même essayé de passer à autre chose. Et passer à autre chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler de BBS. Qu'est-ce que c'est BBS? Ben, BBS, c'est une compagnie qui a existé à partir du début des années 70, ou plutôt de la fin des années 60, selon le moment où on... considère que BBS se forme, parce que il y a une forme initiale de la BBS, qui est une boîte de cinéastes indépendants américains des années 70. Cette forme initiale-là s'appelait Raybird Productions. Et elle mettait finalement au cœur de sa production des jeunes cinéastes, des jeunes acteurs qui allaient finalement affirmer une nouvelle manière de faire dans le cinéma américain, déterminante pour la suite de ce qui va se faire de plus intéressant finalement près de nous sur le continent nord-américain. La BBS, c'est quoi? C'est d'abord un type qui s'appelle Bob Rafelson, qui entre 66 et 68 va produire une série que beaucoup de gens connaissent forcément. Ça passe à la télé, y compris, je pense, à Musique Plus. Il y a peut-être 20 ans, bon, ça fait très longtemps peut-être, mais je crois que ça passe encore parfois en reprise. C'est une série culte des années 60 qui met en scène un groupe pop qui a été inventé littéralement pour cette série-là. Et ça s'appelait The Monkees. A priori, The Monkees, c'est une série qui a été considérée par beaucoup, évidemment par les Québécois aussi à l'époque, qui ont bien connu ce groupe-là, une sorte de parodie à peine voilée des Beatles, et aussi une sorte de mise en place finalement d'un showbiz musical assez cynique qui déferle encore jusqu'à nous et qui nous mène à Star Academy. En gros, Rafelson à l'époque a lancé un appel à tous pour essayer de trouver des jeunes musiciens de manière à former un groupe qui après vont jouer dans une série télé en s'inspirant un peu des films qui ont été faits avec les Beatles, dont par exemple l'exemple qui reste le plus fort est peut-être A Hard Day's Night de Richard Lester, et l'autre film que Lester va faire après avec les Beatles qui s'appelle Help, évidemment qui donne ce titre aussi dans les deux cas, en fait, qui donne leur titre à des albums des Beatles. Donc Rafelson fait ça pendant 2 ans, ça a été un succès immense. Il s'en explique bien dans le coffret DVD. À partir des Monkees, Rafelson, qui est quelqu'un d'assez cultivé, proche de plusieurs metteurs en scène qui vont faire le nouvel Hollywood dans les années 70, et lui-même est un metteur en scène vraiment, vraiment intéressant, à ne pas négliger, même si aujourd'hui il est un peu oublié. Mais bon, non seulement il n'est pas négligé parce qu'il est au cœur de ce que va être l'histoire du cinéma américain peut-être la plus intéressante depuis 30-40 ans, ce qui s'est fait le plus intéressant, mais aussi parce qu'il a fait quelques films qui passent la rampe largement. Mais également, il est sans doute encore plus important parce qu'il a permis de faire quelques films, dont The Last Picture Show et Easy Rider, qui sont des piliers de ce qu'on va appeler Nouvelle Hollywood en particulier. Donc, Rafelson, après le succès des Monkees, a beaucoup d'argent. Il y a eu plein de produits dérivés des Monkees, jusqu'aux boîtes à lunch. C'est un de ceux qui a mis de l'avant toute le délire des produits dérivés autour de musiciens, de groupes, qui va continuer à se perpétrer jusqu'à, par exemple, le groupe Kiss, qui est peut-être l'extrême dans la mise en marché d'un groupe à la fin des années 70. Les Monkees avaient déjà atteint un premier plafond dans cette manière de faire la mise en marché de musique pop. Pourtant, Rafelson est dans le milieu de la contre-culture, assez contestataire, en ce qui a trait notamment à la guerre du Vietnam, qui est quand même le grand thème qui anime la contestation à la contre-culture à la fin des années 60, et autour duquel se rallient beaucoup, beaucoup de gens, autant l'extrême gauche que des personnalités qui sont plus au centre, par exemple, comme l'écrivain Norman Mailer. Pardon. Donc, Rafelson va faire un film avec les Monkees, et de manière assez radicale. Ce film-là est un flop, mais il illustre assez bien son mode d'approche à partir du moment que les coups des franges, qu'il a beaucoup d'argent et qu'il va fonder la BBS, qui s'appelle d'abord initialement Raybird Productions. Donc, lorsqu'il fait le film Ed, qui est le titre du film qu'il réalise avec les Monkees, il a comme volonté d'abord de détruire littéralement l'image qu'il a si bien construite autour de ce groupe. Après 2 ans de série télé, il veut détruire cette image-là. Et il va s'associer à un jeune acteur qui est alors très très peu connu, en fait, sauf peut-être dans le milieu des jeunes acteurs d'Hollywood, là, mais Jack Nicholson est assez peu connu à l'époque. C'est déjà plus vraiment un jeune acteur, donc il est pratiquement trentenaire. Et il va penser à ce moment-là qu'il n'a pas nécessairement d'avenir dans le travail à titre d'interprète, de comédien, éventuellement de star, puisqu'il est à Los Angeles. Et commence à écrire des scénarios. Il avait déjà travaillé avec Monty Hellman sur un film. Monty Hellman qui va donner ensuite, après les années 60, le réalisateur d'un grand film culte qui s'appelle Doolin Blacktop. Peut-être le film emblématique de ce que serait le road movie américain avec Easy Rider à l'époque. C'est pour dire que Nicholson ferait déjà autour de réalisateurs et de personnages essentiels de ce que va être le cinéma américain le plus stimulant à l'époque. Donc, Nicholson va voir Raffleson, qui connaît bien, et il dit, bon, moi, j'aimerais faire un projet de film, j'aimerais écrire un film. Est-ce que c'est possible qu'on se lance bientôt dans une aventure de ce type? Et Raffleson va lui dire, que penserais-tu de faire un film avec les Monkees? Nicholson raconte dans le coffret BBS Story chez Criterion à quel point il était hésitant, perplexe devant la proposition de Raffleson, bien que sachant que Raffleson était évidemment le producteur et créateur de cette espèce de bébite de la culture pop qu'étaient les Monkees. Donc le film Ed, c'est quoi? Ben, c'est un film qui fait la part belle à tout ce qu'on ne devrait pas faire dans un film narrativement bien constitué dans le cadre de la production américaine. Les stars principales, déjà, si on parle juste de mise en marché, les stars principales qui devaient être les Monkees ne sont pas annoncées comme étant les Monkees sur l'affiche du film. Bob Raffleson s'était permis de contacter l'assistant de recherche de McLuhan. De Marshall McLuhan, le grand théoricien des médias, tout à coup j'allais dire Norman McLuhan, dans une sorte de contraction improbable entre le cinéma d'animation Norman McLaren et Marshall McLuhan. Donc Marshall McLuhan, le grand théoricien des médias canadiens, son assistant va être sollicité auprès de Raffleson pour essayer de faire une campagne publicitaire particulière, et il va essayer de convaincre Raffleson que finalement on a juste à montrer une tête sans identité particulière, sans qu'on sache vraiment c'est qui, sur l'affiche, et ça devrait marcher en mettant l'insistance sur le titre Ed. Bon, type de mise en marché théorique, littérale, vraiment curieuse, où il n'y a aucunement question des vedettes du film qui ont permis d'ailleurs de financer ce film sans aucun problème, puisque les Monkees avaient été un succès incroyable. Et à la suite, Nicholson, c'est difficile de savoir quel est exactement son apport dans ce film-là, sinon la contestation de la guerre du Vietnam à laquelle il tient, dont il parle dans les documentaires qui accompagnent le film Ed. Le film Ed est aussi une série de tableaux. En fait, je dis que c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Une série de tableaux où les Monkees, qui sont toujours dans les studios de cinéma, c'est clair, se retrouvent à un moment donné en pleine guerre du Vietnam, ou en tout cas dans une situation qui s'apparente à la guerre du Vietnam, mais qui serait aussi une sorte de rencontre entre la guerre du Vietnam et les clichés de la guerre des tranchées. Donc ils sont dans les tranchées, mais visiblement, c'est l'occasion pour Raffleson et Nicholson de critiquer ouvertement la guerre du Vietnam en faisant des chanteurs des Monkees, des piètres, des victimes ridicules de cette guerre, et qui en même temps pourraient commercialement avoir une force de frappe particulière pour justifier la propagande guerrière américaine par rapport à leur implication au Vietnam. Donc il y a une critique de la mise en marché d'un groupe à laquelle a participé complètement Bob Raffleson dans le cœur de ce film-là. Donc une volonté d'autodestruction qui nourrit tout le film, et qui passe aussi par une mise en scène de l'usage de toutes sortes de drogues de la part des membres des Monkees, de telle sorte que finalement on a l'impression que la belle image lisse construite au cours des deux ans que la série où la série avait vécu est malmenée, et il y a une volonté d'autodestruction qui touche aussi le projet commercial antérieur de Raffleson. Et c'est un geste inaugural qui annonce finalement l'aventure de la BBS. C'est presque un geste sacrificiel de la part de Raffleson pour l'aider à passer à autre chose. Et Ed va être un insuccès total. Le film suivant que réalise Raffleson, c'est autre chose. C'est un film qui s'appelle Five Easy Pieces. Et Five Easy Pieces, c'est sans doute un des plus beaux films du cinéma américain à mon goût, du moins, des années 70. Et c'est ce dont je vais vous entretenir après la pause.
La 12e édition du Mois Multi, du 3 février au 2 mars 2011. 30 jours de festivités pour faire l'expérience des arts multidisciplinaires et électroniques. Des spectacles, des installations, des cabarets audio et du vidéo live. À plus de 125 artistes du Japon, de la Norvège, de la Suisse, de la France et du Canada. Billets en vente à Méduse et sur le réseau Billettech.
Le Mois Multi, du 3 février au 2 mars. Une présentation des productions Recto Verso. Informations et programmation complète, moismulti.org. La 12e édition du Mois Multi, du 3 février au 2 mars 2011. 30 jours de festivités pour faire l'expérience des arts multidisciplinaires et électroniques. Des spectacles, des installations, des cabarets audio et du vidéo live. À plus de 125 artistes du Japon, de la Norvège, de la Suisse, de la France et du Canada. Billets en vente à Méduse et sur le réseau Billettech. Le Mois Multi, du 3 février au 2 mars. Une présentation des productions Recto Verso. Informations et programmation complète, moismulti.org.
CKRL a des espaces à bureaux alloués. Contactez votre courtier immobilier agréé Remax Fortin de l'Âge, Jean-Philippe Deschênes, 88-653-5353.
Bal du Lézard.
Pour sa 25e année, le Bal du Lézard poursuit sa mission de faire découvrir au public des artistes et groupes de la relève. Le tout dans l'environnement unique du bal et devant une clientèle qui a soif de nouveaux sons, tout genre confondu.
En janvier, ne manquez pas la ritournelle, le 8. La formation jazz manouche aux accents rock, Mélogramme, le 15. Cindy Douard, le 19. Et l'incontournable Gab Paquette, le 22.
Le Bal du Lézard, 1049, 3e avenue.
Si vous êtes comme moi, vous trouvez que l'univers des médias du divertissement doit se savourer comme un bon vin. Faut apprendre à recracher. Vous avez vu ce qui se fait de mieux? À ce temps, venez voir ce qui reste. Venez développer votre cynisme et votre sens critique en lançant des projectiles sur les pires navets de l'histoire aux projections gratuites de films douteux. Votez pour le film de la semaine sur le site de douteux.org, présenté chaque lundi à la Nîmes Cassé du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean, à Québec. Visitez le www.douteux.org pour plus d'infos.
Là, tu dis c'était gratis.
Douteux.org. Si vous avez des questions, ben nous autres avec.
CKRL. Cultive tes goûts.
Thank you.
d'entendre une pièce tirée de l'album Spirit Moves, un album qui était sous l'égide du trompettiste Dave Douglas, réalisé plus tôt cette année, trompettiste new-yorkais qui, entre autres, est connu pour faire partie du fameux quartet Masada de John Zorn, quartet initial des grandes compositions du new-yorkais John Zorn autour de Masada et du renouveau de la culture juive qui passe par le jazz. Un apport fondamental à la musique new-yorkaise et plus largement la jazzistique depuis la fin des années 90, depuis le milieu même des années 90. Donc Dave Douglas, un album Spirit Moves entouré de cuivre, assez doux à écouter. Pièce qui nous permet de passer à la dernière demi-heure de cette émission en douceur, une dernière demi-heure qui va être consacrée en partie à parler encore un peu de BBS, cette boîte de prod de cinéma indépendant, de cinéaste indépendant américain qui a eu la commande de produire 6 films. Une commande de la Columbia, en fait, de produire 6 films au début des années 70, et ça va donner lieu à une série de films assez magnifiques. Qui n'ont pas tous la même portée artistique, qui n'ont pas tous la même place aujourd'hui dans l'histoire du cinéma américain, qui ne sont peut-être pas tous aussi influents, ils ne sont peut-être pas aussi beaux, mais ils sont tous aussi beaux d'un point de vue, disons, objectif, entériné par une trollée de critiques comme ça doit l'être pour que ça devienne un classique, mais quand même tous des films qui ont eu le sens du risque comme principal précepte, comme principal principe. Et parfois ça marche, parfois ça rate, mais il y a un souffle de vie qui traverse ce cinéma-là qui me force à vous dire, qui m'incite à vous dire de voir ces films de toute urgence pour voir qu'est-ce que ça peut être prendre des risques en art et prendre des risques au cinéma avec tout ce que ça suppose d'audace et de vie, parce que le cinéma ça coûte cher et ça mobilise énormément de moyens et de gens. Il faut d'autant plus peut-être avoir une vision et un goût d'être vivant pour que ça puisse avoir une portée artistique intéressante. Donc la BBS, à mon avis, incarne ça absolument au début des années 70 avec, disons, son créé une généalogie du cinéma indépendant américain avec comme figure tutélaire John Cassavetes, le grand cinéaste new-yorkais qui a été aussi une inspiration pour des gens comme Martin Scorsese, évidemment, ou Coppola, cinéaste qui met au cœur de son travail la question de l'improvisation et l'improvisation des acteurs et qui considère le projet du film et la rencontre qu'il peut faire au cours d'un film comme aussi importante, aussi déterminante que le film en lui-même. Et je dirais même que la rencontre humaine qui est incontournable lors d'un projet de film doit être exprimée, doit être la matière première d'expression du film, doit être véhiculée au spectateur. Le spectateur doit ressentir cette expression, ce sentiment de rencontre finalement, cette volonté d'exprimer la rencontre dans le film à la base. Donc cette rencontre humaine doit passer dans la fiction, doit être transmise au spectateur et doit le ressentir. Le film comme événement, le film comme rencontre, c'est un peu le programme que s'était proposé, qu'avait proposé John Cassavetes à la fin des années 50 en réalisant son premier film indépendant qui s'appelait Shadows. Et à ce titre-là, il avait posé un geste inaugural vraiment intéressant, peut-être aussi important que Godard ou Truffaut à la fin des années 50, lorsque respectivement Godard avait fait À bout de souffle et Truffaut Les 400 coups, qui changeait un peu la donne stylistique sur la manière de faire de la fiction, en étant davantage proche d'une approche documentaire et jouant sur cette imbrication entre documentaire et fiction à travers l'idée du film comme événement, l'idée du film comme rencontre, comme projet qui doit être livré au spectateur. Donc, il y a un film en particulier dans cette approche, disons, cassavetienne, la Cassavetes, qui incarne bien, c'est un film qui s'appelle Safe Place, un film assez étrange de Harry Jaglom, dont je peux vous parler quelques instants. C'est pas un film, je dirais, qui est marquant. Henry Jaglom, pardon. C'est pas un film qui est marquant comme Five Easy Pieces de Raphaelson, dont je parlerai aussi tout de suite après, ou encore, même si je disais que Five Easy Pieces, j'allais en parler tout de suite, c'est quand même une des pièces de résistance. Moi, une de mes découvertes, en fait, parce que c'est un classique, mais je l'avais pas encore vu. J'ai envie de peut-être terminer sur BBS en parlant de Five Easy Pieces. Mais A Safe Place, c'est un film où la question de l'improvisation est centrale. Et c'est une approche assez radicale dans le paysage du cinéma américain de l'époque, moi je vois aucun équivalent. C'est clair, tout le monde le sait que Shadows de Cassavetes, tous ceux qui connaissent Cassavetes en fait, savent que Shadows en 59 est un film largement, qui doit largement à l'improvisation de ses acteurs, comme Husbands, qu'il va réaliser à la fin des années 60, début 70, et qui est disponible en vidéo depuis très peu de temps, un film avec Peter Falk, Ben Gazzara, et Cassavetes lui-même, qui était acteur aussi, qui est un joyau incroyable, un film d'une humanité et d'une vitalité encore intacte. Quelqu'un comme Jaglom ne fait pas de l'improvisation comme Cassavetes le faisait, c'est-à-dire que Cassavetes a un canevas assez clair. Au contraire, Jaglom était plutôt intéressé dans ce film-là, A Safe Place, à faire se rencontrer des personnages, faire se rencontrer littéralement des acteurs et voir ce qui va arriver. Ce qui est beaucoup plus risqué, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment livrer le film aux acteurs, disons, faire porter le poids du film sur les acteurs. Et à ce moment-là, les acteurs qui s'en sortent le mieux, c'est soit ceux qui restent dans une sorte de naturalisme BA, je dirais, qui essaient de ne pas interpréter un personnage qui, de toute façon, est indéfini, que le réalisateur n'a même pas songé à développer vraiment, parce que c'est pas son objectif avec ce projet de film. Donc, soit, à titre d'acteur, en tant qu'acteur, t'acceptes le fait que finalement tu vas apparaître à l'écran, puis c'est ta photogénie, ta manière de te porter dans la vie qui va passer et advienne que pourra. Soit tu joues à fond une sorte de performance qui va finalement réussir par l'énergie physique à faire influer le style et la finalité du film. Ça, c'est possible lorsque des acteurs vraiment chevronnés sont convoqués ou qui ont vraiment beaucoup de talent et qui ont acquis une technique exceptionnelle. Donc, ça devient à ce moment-là la technique qui est au cœur du style du film. Donc, c'est rare qu'un film américain réalisé, distribué surtout par la Columbia, réalisé dans les années 70, ait pris autant de risques. C'est comme si on faisait du jazz puis qu'il n'y avait même pas de composition. Donc, c'est quelque chose qui est assez proche du free jazz, par exemple. Mais surtout pas de la musique contemporaine. Et le film, se crée aussi au montage. Tout le moment du tournage est un moment où la performance ou la photogénie passe ou casse. Et c'est sûr que pour ce qui est de la performance et d'une trame fictionnelle, je disais que c'est les acteurs chevronnés qui s'en sortent le mieux avec un projet semblable. Ben, évidemment, Nicholson qui joue dans le film et surtout Orson Welles qui joue dans le film aussi contribuent à ce que ce soit quand même assez intéressant de regarder ce film-là. Et surtout, ce qui est très curieux, c'est la prétention du cinéaste à proposer quelque chose sur le plan fictionnel qui serait déstructuré d'un point de vue narratif. Donc, il n'y a pas cette linéarité, ce récit en fil continu dont je parlais dans la première partie de l'émission en évoquant True Grit des Coen Brothers, donc un western avec une linéarité dans le récit. On s'en va d'un point A à un point B. C'est un récit de vengeance. Initialement, il y a eu le meurtre d'un père, puis d'une figure paternelle, puis il va falloir trouver une nouvelle figure paternelle incarnée par Jeff Bridges qui va nous permettre de venger la mort du père. Donc, et à la fin, ben, on réussit ou on échoue, mais il n'y a pas de ligne de fuite. Hein, c'est linéaire. Donc, dans ce film-là, Safe Place, à part le fait que le spectateur est ramené à lui-même, il n'y a pas beaucoup de repères possibles pour lui d'un point de vue narratif. Lorsqu'on considère que l'espace-temps est éclaté dans certains films contemporains, ben là, il est éclaté absolument, il est en miettes, il est en mille morceaux, et c'est des heures et des heures de tournage pour arriver à monter un film qui se concentre essentiellement sur la performance des acteurs. Donc, ce qui est intéressant avec ce film-là de Jaglom, qui n'est pas très réussi, qui est un peu bizarre, c'est qu'il permet de peut-être éclairer d'un jour différent l'importance finalement du jeu de l'acteur dans ces films de la BBS, et je vais peut-être terminer là-dessus pour ce qui est de A Safe Place. Donc, l'importance du jeu de l'acteur pour montrer, pour créer de la fiction, pour amener une nouvelle énergie, c'est ce qui fait le fil conducteur entre tous les films de la BBS. L'idée que un acteur doit finalement incarner une forme d'énergie presque naturaliste qui va être véhiculée par la fiction ou pas, Dans le cas de Jerry Blum, c'est presque de la performance pure. Mais en tout cas, dans toute la BBS, il y a une volonté de renouveler la fiction américaine qui passe par un renouvellement du jeu de l'acteur. Soit de la performance pure, de l'improvisation, soit un acteur qui va se rapprocher davantage d'une manière d'être qui serait celle d'un homme du peuple, d'un homme sans identité, qui ne serait pas celle de la star, finalement. Donc, la nouvelle image de l'acteur, c'est quelqu'un qui est plus proche du monde des spectateurs qui vont aller voir les films. De l'émission 7e ciel aujourd'hui sur les ondes de CKRL. Quelques mots encore sur BBS, sur le cinéma de la BBS, juste pour vous mieux vous éclairer sur le fait que les films de cette boîte de production unique en son genre dans les années 70 aux États-Unis ne s'intéressaient pas trop à suivre des lignes droites, des trajectoires qui vont en ligne droite. Lorsqu'on suivait des personnages, forcément, il y avait des sentiers qui bifurquaient et il fallait accepter ça ou partir. Donc, la possibilité de partir, c'est-à-dire quitter la salle, la possibilité de se transformer, de changer de vie, de rompre avec son passé est au cœur des enjeux de fiction du cinéma de la BBS et en particulier dans Five Easy Pieces. Je peut-être conclure là-dessus. Il y a une séquence qui est extraordinaire que j'ai envie de vous décrire, qui est peut-être un des plus beaux moments dans l'histoire de la carrière exceptionnelle d'acteur de Jack Nicholson. C'est ce moment où Nicholson, qui travaille dans le désert, dans une carrière de forage dans le désert, doit se rendre au travail. Il est pris dans le trafic avec son collègue en voiture et rien n'avance, rien ne bouge pendant des minutes. Il se fâche, commence à gueuler, c'est lui qui est au volant. Puis il décide de quitter la voiture. Devant lui se trouve une camionnette. Derrière la camionnette se trouve un piano. Nicholson monte sur la camionnette, commence à jouer du piano. Le trafic commence à débloquer. Son ami dans la voiture en arrière décide de prendre le volant. Les voitures avancent. Nicholson continue à jouer du piano. Tout à coup, il y a une voie de sortie. La camionnette s'y engouffre. Nicholson continue à jouer du piano et son ami s'en va au travail dans la voie droite, sur la ligne droite. Nicholson n'ira pas travailler ce jour-là. Il n'ira plus jamais travailler. Et par ailleurs, on apprend après ça qu'il est un ancien pianiste classique. Donc cette manière de ne pas donner toutes les clés d'un personnage et ne pas considérer que la vie est une ligne droite, c'est aussi accepter finalement le mouvement de la vie, l'imprévu, comme matériau de fiction passionnant. Et c'est ce qui fait tout le prix du cinéma de la BBS que d'accepter ça, d'accueillir cette idée-là liée à la fiction. Ce qui me permet de terminer peut-être l'émission aussi, cet exemple de Favier Zipissus me permet un peu de terminer l'émission en parlant de cinéma en partance. C'est une thématique, celle des sentiers qui bifurquent, si on veut, qui revient beaucoup dans le cinéma contemporain qui se fait depuis 5-6 ans, aussi bien en Allemagne, en Turquie, en France, qu'aux États-Unis dans certains cas. Peut-être les films de Sofia Coppola pourraient s'inscrire là-dedans, dont on parlera prochainement. Peut-être que prochainement on parlera de son film Somewhere, qui vient tout juste de sortir. Il y a un programme dont je m'occupe, comme je le disais en début d'émission, qui s'appelle Cinéma en partance, qui va être présenté sur 2 semaines au Musée de la Civilisation. Ça commence un mercredi et jeudi. Et puis ça se continue la semaine suivante, jeudi et vendredi, donc 3 et 4 février. Le premier film qu'on présente cette semaine, c'est Dans Paris de Christophe Honoré. Christophe Honoré, c'est un relatif jeune cinéaste, ou en tout cas un cinéaste qui incarne peut-être la nouvelle vague du cinéma français. On l'associe peut-être aussi à la Nouvelle Vague dans la mesure où c'est un ancien critique au Cahier du cinéma et que généralement la Nouvelle Vague est associée au Cahier du cinéma traditionnellement, mais c'est pas exact, c'est pas tout à fait exact. Donc Honoré, dans son film Dans Paris, commence son récit avec un personnage incarné par Romain Duris qui veut rompre avec sa fiancée et il vient en province avec elle. Tout le premier quart d'heure du film, une suite de disputes, ce qui est aussi une mise à l'épreuve pour le spectateur. Et ensuite, on va vers un chemin auquel on ne s'attendait pas. Tout le programme qu'on propose au cours de ce cycle-là, Cinéma en partance, tourne autour de cette idée-là, cette idée que c'est possible de partir une vie qui nous déplaît, que c'est possible aussi de retourner peut-être aux sources de notre vie, soit des lieux d'enfance ou des lieux de jeunesse, pour mieux voir en quoi ils sont à l'origine de ce qui nous a déplu ou de nos agréments ou de nos désagréments récents. Donc, des films qui sont parfois introspectifs, des films qui sont marqués par l'idée de rupture, c'est un peu l'idée de ce programme. Et quand je dis cinéma en partance, partir, revenir, ça peut être aussi mettre en scène la guerre, comme rarement elle a été mise en scène depuis les années 70. C'est-à-dire que le moment clé de la guerre du Vietnam, dont je parlais tout à l'heure, qui est tellement important pour la naissance de la BBS et pour trouver une sorte de cause rassembleur à une bande de cinéastes engagés qui ont envie de parler de la société dans laquelle ils vivent, cette question-là, cette manière de faire du cinéma, elle est un peu réactivée avec les contraintes contemporaines, évidemment, à travers l'expérience de la guerre en Afghanistan et aussi celle évidemment de la guerre en Irak. Un film comme Flandre de Bruno Dumont qui va être présenté le 3 février prochain joue à fond sur cette réalité contemporaine de la guerre, et la force de Dumont est assez différente de celle d'un cinéma où les sentiers bifurquent. C'est plutôt un cinéma de la cruauté envers les personnages présents, mais aussi un cinéma qui va assez loin dans la violence et l'impasse dans laquelle ces personnages se trouvent. Le film Flandre est un film qui fait l'aller-retour entre le nord de la France et un lieu hypothétique au Moyen-Orient qui n'est jamais vraiment nommé, où a lieu la guerre et où des personnages qui se retrouvaient dans la première partie du film, dans la première portion, dans le nord de la France, vont aller. Une expérience cinématographique assez unique, pour moi, un des films de guerre les plus forts depuis Full Metal Jacket de Kubrick, qui était peut-être le point d'orgue de ce qu'on a appelé le cinéma de la contre-culture qui a pris fait cause contre l'engagement des États-Unis au Vietnam. Donc voilà, c'est une invitation que je vous fais, venez voir ces films, et en particulier aussi Les Amitiés Maléfiques d'Emmanuel Bourdieu. Emmanuel Bourdieu qui est scénariste très connu pour ses collaborations avec Arnaud Desplechin au tournant des années 2000 et puis aussi un peu avant, notamment dans un film qui est un peu un film culte ou un film générationnel qui s'appelle Comment je me suis disputé, où toute une troupe d'acteurs qui inonde aujourd'hui le cinéma français émergeait. Donc plein d'acteurs avaient des premiers rôles qu'on allait revoir un peu partout dans plein de films, dont Mathieu Amalric et Emmanuel DeVos, c'était pratiquement leur premier rôle. Les Amitiés Maléfiques, c'est un film qui est scénarisé par, qui est réalisé par le scénariste de Comment je me suis disputé, Emmanuel Bourdieu. Et cette fois-ci, c'est un peu comme Comment je me suis disputé, mais sous un mode, sous un autre mode. Donc, pas vraiment un portrait générationnel, puis c'est pas vraiment une comédie non plus. C'est tout à coup un portrait des violences sociales que l'on retrouve, et on en traite, je trouve, pas assez, pas souvent, au sein de l'académie et au sein de l'université. Donc, entre autres, un portrait des rapports pervers entre prof et élèves, et des rapports surtout de pouvoir entre prof et élèves, qu'on retrouve très, très souvent à l'université, donc une critique de ces rapports de pouvoir-là, et de la volonté de peut-être avoir le choix de ne pas suivre cette voie toute tracée dans le rapport prof-élève qui est forcément celui de l'académie et forcément celui de la tradition. Donc, rompre avec la tradition, passer à autre chose, prendre un chemin auquel on s'attendait pas, même si c'est une impasse. C'est un peu le programme du film Les Amitiés Maléfiques de Bourdieu, que je vous invite à venir voir, qui va être présenté, encore une fois, au Musée de la Civilisation, jeudi prochain. Voilà, c'est ce qui termine aujourd'hui l'émission 7e ciel. J'étais un peu bavard. Je vous remercie d'avoir été là si vous êtes resté jusqu'à la fin. Et je cède l'antenne dès maintenant à l'émission Rétrogardiste. À bientôt.